Nous avons abondamment parlé de l'évolution et nous allons passer au créationnisme. Et alors j'ai choisi comme titre créationnisme oui mais. Créationnisme oui, mais vous allez voir qu'il faut faire attention. Il ne faut pas être créationniste de n'importe quel type.
Malheureusement, le mauvais créationnisme,
c'est celui dont on entend parler le plus. Et c'est celui qui se fait entendre le plus.
Et qui, vous allez le voir, fait en sorte que les créationnistes sont complètement discrédités. Alors, la théorie créationniste consiste, alors là, je vais simplifier, en un point de départ qui est la création. Donc, toute théorie créationniste, évidemment, part de cette idée qui n'est pas une idée scientifique. C'est évident. La science ne peut pas prouver, ne peut pas disserter, ne peut pas expérimenter sur cet acte particulier que personne n'a pu observer, qui est fait par une puissance que personne n'a pu observer, donc inaccessible aux scientifiques. Donc il faut bien dire que les évolutionnistes vont attaquer le créationnisme sous cet angle-là, en disant, vous partez d'un a priori, qui est un a priori d'ordre religieux, puisque une puissance supérieure, c'est souvent dû à une certaine religion, et donc c'est déjà un très mauvais départ pour faire de la recherche scientifique. Donc, pourtant, le créationnisme scientifique, ce qui pour beaucoup de scientifiques est une aberration, une appellation complètement aberrante, parce que vous avez une partie qui n'est pas scientifique et une autre qui l'est. C'est une tentative d'expliquer scientifiquement l'histoire de notre planète. Donc l'histoire de la vie, notamment sur notre planète. Donc, plusieurs points vont être abordés. C'est-à-dire, voilà, le problème, c'est que l'accusation va au-delà de ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire, on doit accepter qu'on part d'une idée qui n'est pas scientifique. Mais de là à dire que c'est anti-scientifique, c'est là que ça va trop loin. Parce que, et là je vous rappelle, dans l'histoire de la science, les premiers grands scientifiques, les pères de la science moderne étaient tous des croyants en un Dieu créateur. Ça ne leur a pas empêché de faire de la recherche scientifique. Donc, c'est une attaque qui est mauvaise, en fait. C'est clair que quand vous faites de la science, vous faites de la science. Vous ne mettez pas Dieu là toujours derrière, vous faites votre recherche scientifique. Et donc, ça n'empêche malgré tout que si vous êtes un croyant et que vous croyez en un Dieu créateur, vous pouvez faire un travail scientifique tout à fait normal, sans aucun problème. C'est évident. À condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas faire intervenir Dieu à tout bout de champ lorsque vous avez un problème. Parce que là, c'est plus sérieux. Donc, vous faites de la science, vous restez dans le domaine scientifique. Alors, un des problèmes qui a été débattu dans le mouvement créationniste, c'est l'âge de la Terre. Alors, je parle ici de la planète. Entendons-nous, je parle de la planète. Sa constitution minérale, etc. Enfin, la matière de la planète. Alors, vous avez deux écoles qui s'affrontent. L'école qui soutient l'idée de la Terre jeune, quelques milliers d'années, calculée d'après la Genèse. Et pour faire appel, ou pour soutenir cette idée, ils vont faire appel à la théorie de l'apparence d'âge. Ils disent, voilà, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ou lorsqu'il a créé les animaux ou les premières plantes, il fallait qu'elles aient un certain degré de maturité pour pouvoir survivre. Donc, lorsqu'Adam est apparu sur la terre, c'était pas un petit bébé, donc, il était Il avait l'apparence de quelqu'un qui avait un certain âge, et pourtant, il venait juste d'apparaître. Donc, il avait un âge, mais qui était un âge apparent seulement. Donc, il dit, ben voilà, pour la Terre, c'est la même chose. La Terre, en effet, si vous l'observez, elle a des indices qui nous montrent qu'elle a plutôt l'air d'être vieille, très vieille, mais ce n'est qu'un âge apparent. Bon, une explication, c'est pas une explication scientifique, hein, ça je vous dis tout de suite. La différence, c'est que malgré tout, entre Adam qui pouvait avoir, je crois, 20, 30 ou 40 ans, j'en sais rien, d'aspect, et l'âge réel, ça fait que quelques dizaines d'années de différence. En ce qui concerne la Terre, c'est plus que ça. C'est pas des milliers, c'est pas des centaines de milliers, c'est pas des centaines de millions, c'est des milliards d'années. Alors, on pourra toujours discuter l'âge de la Terre, mais ça n'empêche que, apparemment, c'est quelque chose d'assez ancien. Alors, il y a un problème qui se pose, c'est les étoiles. Les étoiles sont tellement éloignées, et connaissant la vitesse de la lumière, si les étoiles avaient été formées, en plus, le quatrième jour, si elles ont été formées le quatrième jour, donc après la Terre, ce qui, pour tout astronome ou cosmologue, est une totale aberration, alors à ce moment-là, le nombre d'étoiles qu'on verrait serait très réduit. Parce que la lumière des étoiles les plus éloignées ne nous serait toujours pas arrivée. Or, vous avez sûrement entendu parler qu'on a vu, on a assisté à des collisions, enfin, les astronomes, pas nous, parce qu'on n'a pas les moyens, à des collisions entre étoiles éloignées ou des étoiles qui ont explosé, qui sont mortes. Mais ça s'est produit à une époque bien avant que nous soyons sur notre planète. Donc, c'est quelque chose, c'est un événement qui est arrivé sous nos yeux après des milliards, enfin, je ne connais pas exactement la date, mais un temps énorme. Alors, si, effectivement, le reste de l'univers a le même âge que la Terre, de quelques milliers d'années seulement, alors, comment résoudre le problème? Certains ont été même jusqu'à imaginer l'idée que Dieu avait créé des photons sur le trajet, mais déjà beaucoup plus près de la Terre, qui nous permettaient de voir ces étoiles qui, en fait, sont tellement éloignées que, pour l'instant, on ne peut pas les voir. Alors, ça, c'est un peu gênant, parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à un Dieu qui est en train de nous tromper, carrément. Hein? Donc, Dieu n'est pas un Dieu trompeur. Et je crois que Dieu a fait les choses telles que nous pouvons en comprendre une bonne partie. C'est-à-dire que Dieu a fait les choses telles qu'elles correspondent à notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau est capable de comprendre un certain nombre de choses et il a créé les choses avec des lois que nous pouvons retrouver. Et donc, ces créatures sont intelligibles. Il y a des choses que je vais vous montrer tout à l'heure où on n'arrive pas à comprendre parce que là, on arrive aux limites. Mais la science arrive à comprendre des tas de choses. Et je crois que c'est l'effet de la bonté de Dieu que nous puissions arriver à ça. Donc, il est hors de question de passer par ce genre d'explication. Parce que là, ça devient gros, ça devient énorme. Donc, tout porte à penser que la Terre est plutôt ancienne. Personnellement, en tout cas, c'est ce que je pense, et mes collègues pensent la même chose que moi. La Terre est ancienne, ça peut aller jusqu'à quelques milliards d'années, pour moi, ça ne me dérange absolument pas. L'univers peut être encore plus ancien. Je vous signale, entre parenthèses, que la Bible ne nous dit rien de manière précise sur cette histoire-là. Et que, de toute façon, ça ne change strictement rien au message biblique. Que la Terre soit ancienne ou qu'elle soit récente, ça ne change rien. Maintenant, je dirais quand même que si la Terre est récente, si l'univers est récent, ça va poser plus de problèmes que la deuxième solution. Ça, c'est sûr. Donc, s'il y a quelques milliards d'années, pas de problème pour l'âge de la matière. Par contre, ça va poser un problème pour l'âge de la vie. Parce que là, on va tomber sur des problèmes théologiques. Donc, l'âge de la vie, c'est là que vont intervenir les datations dont j'ai parlé un peu hier, et les fossiles, donc, qui paraissent effectivement très âgés. Ça, c'est une question très épineuse. Ça pose le problème du mal. Si la vie est très ancienne, pourquoi y a-t-il la mort alors que l'homme n'est pas encore apparu? Or, d'après la Bible, la mort est la conséquence du péché. Le seul qui peut pécher, c'est l'homme, pas les animaux. Donc, il y a quelque chose là de problématique. Jusqu'où l'évolution est-elle acceptable? Ça, c'est un deuxième point. J'ai donc dit hier, et redit, le fixisme n'est plus défendable. L'association, la promotora, est un fait. Il faut qu'on l'observe. La logique de la Genèse s'oppose pas à la spéciation. Alors, je répète encore une fois, si vous lisez le texte de la Genèse, que vous êtes fixiste absolument, comment vous allez expliquer le fait que, à un moment donné, la nature change? À partir du péché, on dit qu'il y a des épines qui vont apparaître, il y a... Enfin, la nature change. Si vous pensez que Dieu n'a pas créé des animaux carnivores, on a aujourd'hui des carnivores, d'où ils viennent les animaux carnivores? Alors, il y a deux solutions. Ou bien c'est le diable qui l'a fait, ou bien c'est une modification des espèces. Et donc, il y a quelque chose là qui s'est produit, sérieusement. Et donc, s'il n'y a pas spéciation, on ne voit pas comment ça peut se produire. Si vous dites que c'est le diable qui l'a fait, vous lui donnez bien du pouvoir. Maintenant, je ne connais pas les pouvoirs du diable dans ce domaine. On le connaît sur d'autres plans. Maintenant, sur celui-là, j'en sais rien. Je ne peux pas... Mais je le vois mal dans un laboratoire trafiquer les gènes, je ne sais pas, hein, c'est très difficile. Donc, d'autre part, comment vous allez expliquer l'affaire de l'arche de Noé? Si toutes les espèces rentrent dans l'arche de Noé, seulement bien sûr les espèces terrestres, ça va faire beaucoup de travail pour Noé. Un an, un peu avec tout ce monde-là. C'est invivable. Invivable. Et ça ne rentrera pas, de toute façon. C'est clair. Donc, création selon leur espèce, donc je vous avais dit déjà que c'est une mauvaise interprétation du terme espèce. Il ne faut jamais lire les... Surtout qu'en plus, on n'a que des traductions. Il ne faut jamais lire les termes bibliques avec les lunettes du 21e siècle. Hein. Attention. L'arche de Noé. Alors, vous savez qu'il y a un scientifique, un adventiste, qui a élaboré un concept qu'on appelle le concept de baramine. C'est un terme formé de deux termes hébraïques. Vous avez bara, tout le monde connaît bara, je pense. C'est le terme qui veut dire créer. Le seul sujet de ce verbe ne peut être que Dieu. Donc, c'est un terme qui est réservé à Dieu. Quand Dieu crée, c'est bara. Au moins, dans certains versets seulement du premier chapitre de la Genèse. Et mine, c'est un type. C'est pas une espèce biologique, c'est un type. C'est une sorte de quelque chose. Donc c'est un terme vague. Donc, baramine, ça désigne les types créés par Dieu. Bien entendu, personne n'était là pour savoir quel que Dieu a créé réellement au moment de la création, ça n'en sait rien. Mais rien ne prouve non plus qu'il a créé le chat, le chien, la girafe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'éléphant, etc. Ça, nous n'en savons rien. Méfiez-vous des images d'Épinal avec l'arche de Noé, tous ces animaux dedans. Ça, c'est bien pour les enfants, mais sachez que on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Ça peut peut-être vous ôter quelques habitudes que vous aviez dans votre esprit, mais c'est ainsi. Il faut bien comprendre. Alors, voilà ce concept qui date de 1947, c'est pas nouveau, hein. Voilà comment il voit la chose. Vous avez la création ici, et il va créer donc différents types. Et puis, entre la création, le moment de la création et le déluge, il va y avoir, semble-t-il, puisque d'après lui, donc il n'y avait pas trop de variations climatiques à la surface de la Terre, une petite diversification, mais pas grand-chose, et arrive le déluge. Le déluge, grande catastrophe, qui va déclencher cette fois-ci des crises écologiques énormes et apparition de nouveaux climats très différents de ceux qui existaient avant. Alors ça, pour un évolutionniste, c'est clair, c'est le déclenchement de l'évolution. Alors, bien sûr, eux, je la vois à grande échelle, de toute façon, ils ne pensent même pas au déluge, mais enfin, une catastrophe, c'est l'accélération de l'évolution. Et d'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible. Puisque vous avez des changements subis, ou bien les espèces meurent, ou bien elles s'adaptent. Et en s'adaptant, forcément, elles vont se diversifier et finir par donner une plus grande diversité d'espèces. Donc, ce qui fait que là, vous voyez, immédiatement, vous avez une diversification galopante qui fait que nous avons toutes ces espèces que nous connaissons aujourd'hui. Et ceci, en l'espace, d'après cette chronologie, de quelques milliers d'années, c'est suffisant. Pourquoi c'est suffisant? Parce que Dieu a créé déjà les types au départ. Il n'y a plus le problème de créer ces différents, par évolution, ces différents types, parce que là, c'est compliqué. Ici, vous avez gagné du temps, évidemment, et vous n'avez qu'une diversification à l'intérieur de chaque type. Ce qui, scientifiquement, est plus facilement acceptable et dans un temps beaucoup plus court. Donc ça, c'est une idée qui est intéressante. D'ailleurs, il y a un groupe aux États-Unis qui a créé une science qui s'appelle la baraminologie. Et donc, ils étudient cette question. C'est intéressant, en tout cas. Ce n'est pas des adventistes, d'ailleurs, hein, ceux qui étudient ça. La question du déluge. Ça, c'est une grosse question. Alors, rappelons-nous, et je suis toujours étonné de voir, mais je ne pense pas que ça soit le cas ici, que dans certaines églises, je vais, quand je dis que le déluge a duré un an, il y en a qui ouvrent des yeux comme ça. Ils pensaient que ça allait durer 40 jours seulement. Le déluge, c'est un événement, d'après le texte biblique, qui est un événement long, c'est-à-dire qui dure une année. Bien. Imaginons donc, d'après le récit, ce qui s'est passé. Les eaux vont monter pendant 150 jours. Elles vont descendre, redescendre, pendant un temps encore plus. On arrive donc ici à un maximum où on vous dit toutes les montagnes sont recouvertes. Premier problème. Si les montagnes sont celles que nous connaissons aujourd'hui, impossible. Pas assez d'eau. Vous pouvez trouver toute l'eau de l'atmosphère, tous les océans, toute celle qui est en dessous, puisqu'on vous dit dans le récit, les eaux sont montées de l'abîme. Il n'y a rien à faire, vous ne trouverez jamais assez d'eau pour couvrir l'Everest. Mais imaginez un peu, l'Everest, 8000 mètres, il faut qu'il y ait 8000 mètres d'eau de plus que le niveau actuel de la mer, c'est impossible. Donc, ces montagnes étaient plus basses. Alors le problème est le suivant, parce que chaque fois il y a un nouveau problème. Comment est-il possible que ces montagnes se soient formées en l'espace de quelques milliers d'années seulement? Alors immédiatement, réponse. C'est que ces montagnes sont expliquées par la dérive des collisions des plaques, elles se compriment, et donc ça fait jaillir, c'est, bon, enfin, quand on dit jaillir, pour un géologue, ça fait monter lentement mais sûrement le niveau de ces chaînes. Si vous dites, voilà, ça date du déluge, il va falloir que tout s'accélère. Donc, ce déplacement doit être rapide. L'océan Atlantique s'est formé aussi, mais cette fois-ci par séparation. Vous voyez la largeur de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, ces mouvements sont de quelques millimètres par an. Donc on dit, ben voilà, autrefois, la vitesse était plus rapide, et puis maintenant, on a une phase où ça se freine de plus en plus. Donc vous savez que le Mont Blanc, par exemple, on le recalcule, il monte toujours un petit peu à chaque fois. Donc il y a un soulèvement, mais très lent. Le problème, c'est comment vous allez expliquer un mouvement plus rapide. Ces mouvements sont dus au mouvement du magma qui est en dessous. Donc il faut accélérer les mouvements du magma. Pour les accélérer, il faut qu'il y ait plus de chaleur. Si vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Les océans vont s'évaporer, la vie risque d'être tout va être cuit. Donc, on est là devant un sérieux problème. Voilà, je vous dis tout de suite, le déluge qui nous paraît si simple, c'est Dieu qui l'a utilisé dans l'histoire de l'humanité, scientifiquement en tous les cas, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Donc, d'autre part, je vous signale, je ne suis pas un spécialiste, hein, qu'il y a des chiffres qui réapparaissent constamment. Le chiffre 40, le chiffre 7. Vous savez que ces chiffres sont des chiffres qui ont une signification. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que ça ne correspond pas à des dates précises? Je n'en sais rien. En tous les cas, je fais remarquer quand même qu'il y a ces chiffres. C'est certainement pas pour nous, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, mais pour les spécialistes des textes hébreux, ça a une signification. Donc, voilà la question du déluge qui, comme vous le voyez, n'est pas sans problème. Alors, on en vient à une question qui m'avait été posée hier, je ne sais plus par qui. L'ordre des fossiles qui serait expliqué par le déluge. Je crois bien que c'était vous, hein. Alors voilà, on en arrive à la réponse. Alors, la théorie qui a été utilisée nous vient là encore d'un scientifique adventiste, Clark, en 1946, qui a proposé cette théorie de la zonation écologique. Alors, Clark était un spécialiste de l'écologie, de la paléoécologie. Il a étudié donc les fossiles, non pas séparément, mais cette fois-ci les communautés, si vous voulez, de fossiles. C'est-à-dire que tel fossile, tel type de fossile avec tel autre type de fossile, ça forme donc, comme aujourd'hui, les animaux. Il y a des chaînes alimentaires, il y a des espèces qui cohabitent, pareil avec les végétaux d'ailleurs, qui rentrent dans. Ça fait des écosystèmes, et bien là, il a étudié ça avec cette vision de rétablir les écosystèmes qui auraient pu exister avant le début. Alors, voilà le schéma en question. Vous rappelez peut-être qu'en bas, dans les couches géologiques, ce que vous observez, ce sont des fossiles marins. Des invertébrés, quelques vertébrés, donc des poissons, des fossiles marins. Donc il dit, voilà, au fur et à mesure que les eaux ont monté, la sédimentation a enfoui les animaux et les plantes là où elles se trouvaient. Donc ça a commencé, évidemment, grâce à des courants, tout ça, ça s'est mis en mouvement. Ça a commencé dans les océans eux-mêmes, donc les animaux aquatiques, ces océans ont été les premiers enfouis, se sont fossilisés les premiers,
Puis après, on assiste effectivement à la présence de plantes de ce type-là, donc des fougères arborescentes, quelques animaux qui peuvent être vivants dans les eaux littorales. Et donc, vous avez ici, en cuisson, à son tour de ces zones-là, puis on remonte au fur et à mesure, et c'est là qu'on va trouver certains animaux qui sont du même type que ceux qu'on trouve dans les couches supérieures. On peut bien sûr retrouver des animaux aquatiques, et ça peut être soit des mers intérieures qui sont plus élevées, soit des lacs, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, on voit un changement dans la végétation. On passe d'une flore tropicale à quelque chose de plus tempéré. Vous avez donc des plantes avec des feuilles. Et puis enfin, vous trouvez là-haut des plantes, des arbres avec des aiguilles. Donc ça veut dire que pour lui, la température varie essentiellement en fonction de l'altitude, ce qui est toujours vrai aujourd'hui, mais ce qui n'était pas le cas autrefois, avant des luges, serait le fait que les zones climatiques que nous connaissons aujourd'hui n'existeraient pas. Parce que le climat devait être plus homogène avant le déluge. Après le déluge, c'est là que les zones climatiques se forment. Avec les pôles, très froid, tous les intermédiaires jusqu'à l'équateur, très chaud. Donc, pour les animaux, on va voir évidemment les animaux dits à sang froid, ceux dont la température dépend de la température extérieure. Quand il fait froid, leur température baisse, quand il fait chaud, leur température monte. Et les arbres, par exemple, vous savez très bien, cherchent le soleil pour se dégourdir, sinon, ils ne bougent plus tant qu'ils sont à une température basse. Par contre, les mammifères et les oiseaux sont capables de réguler leur température, quelle que soit la température extérieure. Donc eux peuvent vivre à des altitudes plus élevées. D'autant plus que, il dit, la répartition des animaux peut aussi varier en fonction d'autres éléments. D'autres études donc ont été faites, qui ont complété ça, en disant, ben voilà, quand les eaux montent, les animaux, ceux qui sont capables de se déplacer rapidement, ou ceux qui se rendent compte du danger, vont fuir. Donc ils montent en altitude. Il est évident que les mammifères et les oiseaux sont avantagés et ils vont se dépêcher de fuir. L'humain, encore plus malin, va essayer par tous les moyens d'échapper, et utilisant peut-être même des choses qui flottent. Voilà. Donc, la répartition va donc tenir compte de ça. Et donc, au premier abord, effectivement, on aurait une certaine adéquation entre l'ordre des fossiles, l'ordre stratigraphique des fossiles, et cette reconstitution ici qui fait. Malgré tout, il y a des problèmes, là aussi. En effet, quand on commence à étudier les microfossiles, c'est là qu'il y a des problèmes. Je suis un spécialiste des microfossiles, mais je ne suis pas le seul. Mes autres collègues qui étudient les microfossiles voient quand même qu'il y a des problèmes dans cette théorie de la zonation chaotique. Si dans l'aspect général, elle semble satisfaisante, quand on commence à aller dans les détails, là, ça commence à poser problème. Pourquoi ? Eh bien, les microfossiles, eux, contrairement aux grands fossiles, n'ont pas besoin forcément d'être recouverts par des couches énormes, puisqu'ils sont minuscules. Et donc, ce que l'on observe, c'est pas un ordre général, grossier, de ces fossiles, mais c'est un ordre extrêmement précis, cette fois-ci, des espèces de ces microfossiles. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez donc dans certaines zones, le Cambrien, vous avez tel type, après, etc., etc., les grandes époques géologiques. Là, dans des dans des subdivisions, ces grandes époques, vous avez un ordre extrêmement précis encore. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez en rétrécissant le domaine de ces couches géologiques, vous voyez qu'il existe toujours un ordre extrêmement précis. Et de plus, on s'aperçoit que dans certains cas, ces microfossiles sont conservés de manière extraordinairement exemplaire. Vous avez toujours sur la surface de ce fossile, de ces fossiles, toutes les petites épines, vous avez même le une sorte de vernis qui le recouvre, qui est normalement, s'ils sont ballottés à droite et à gauche, tout ça va être usé très rapidement. De plus, on trouve les adultes, on trouve les larves à côté, donc normalement, quand il y a des courants, les plus gros restent derrière, les plus petits vont être éjectés. Donc il va y avoir un tri. Il n'y a pas de tri. Donc tout ceci, manifestement, s'est déposé dans un endroit très calme et sur une succession de couches. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on peut admettre qu'à certains endroits, au cours du déluge, il y a eu des régions où les choses se sont faites calmement. C'est tout à fait légitime de penser ça, pourquoi pas? Il n'y a aucune raison pour que ça soit la grosse catastrophe partout, au même endroit et en même temps. Donc, c'est une possibilité. Le problème, c'est que quand vous avez une couche avec tel ensemble d'espèces, puis après au-dessus, vous avez encore une couche juste au-dessus avec un ensemble d'espèces différentes. Puis après, vous passez au-dessus encore un ensemble d'espèces différentes. Comment vous allez expliquer ça? Alors certains vous diront, oui, mais c'est parce qu'il y a une couche qui est arrivée d'un endroit, c'est déposé là, avec ces espèces, puis d'un autre endroit, au-dessus, etc. Apparemment, il n'y a pas eu de transport. Donc ça veut dire que normalement, là, ces dépôts ont pris un certain temps, un minimum de temps. Et un minimum de temps, c'est-à-dire plus longtemps que le déluge, qui a duré qu'une année. Alors, je ne peux pas vous donner la réponse, mais aujourd'hui, en tous les cas, avec mes collègues du Geoscience Institute, on est en train de se poser la question. Contrairement à ce qu'on disait avant, qui consistait à dire une bonne partie des sédiments où il y a des fossiles sont dus au déluge, on est en train de dire est-ce que ça ne serait pas une partie peu restreinte? Ce qui n'exclut pas qu'il y ait eu d'autres catastrophes dont la Bible ne parle pas. N'oubliez pas que la Bible ne nous dit pas tout. Si la Bible parle du déluge, c'est pourquoi? Pas pour parler des catastrophes. Pour parler de la leçon qu'on peut en tirer. C'est une affaire entre Dieu et les hommes. C'est pas l'histoire d'une catastrophe. C'est pas une description scientifique d'une catastrophe. La catastrophe n'a d'intérêt dans ce récit que parce qu'elle a une application pédagogique pour l'humain. C'est pas la catastrophe pour la catastrophe. Je vous rappelle, malgré tout, que les spécialistes du texte savent très bien comment est formée la structure du texte. Quand vous lisez ce récit, comme beaucoup d'autres récits dans la Bible, eh bien, il y a une correspondance entre le premier verset et le dernier, et puis on revient de plus en plus près, et on arrive au verset central, qui est le verset capital qui parle du point capital de l'événement. Et le point capital de l'événement, figurez-vous, c'est « Et Dieu se souvint de Noé ». La catastrophe n'est que là pour faire un décor. Le point essentiel, c'est « Dieu se souvint de Noé ». Donc ça veut dire que Dieu, au milieu de tout ça, pense encore à l'humanité et protège l'humanité. C'est donc l'image du Dieu sauveur, l'image du Dieu destructeur sur lequel trop souvent on insiste. On ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose, mais le Dieu sauveur est nettement plus important. Donc, la Bible ne va pas parler d'autres catastrophes qui auraient pu se produire sur la surface de la Terre. Ça n'a aucun intérêt. Tout est fait, je vous rappelle, dans la Bible, pour braquer les projecteurs sur l'homme et sur Dieu, et la relation entre l'homme et Dieu. Le reste, ce n'est que du décor. Donc, le déluge peut très bien n'être responsable que de certaines parties des couches fossilifères. Mais je voudrais vous dire qu'on est en train d'étudier la question. Nous n'avons toujours pas la réponse pour l'instant. Recouvrement de toutes les montagnes par les eaux, j'en ai déjà parlé. Déluge responsable de tous les fossiles, je viens d'en parler. Illustration. Là déjà, vous voyez, on n'est pas sûr qu'il y avait ça. Les dinosaures, les pauvres malheureux, demandent à Noé s'ils peuvent rentrer. Vous voyez la vague qui arrive derrière. Et Noé leur répond, mais vous voyez bien, c'est impossible.
Mais il y avait quand même des dinosaures de taille plus petite.
Bien entendu. Même, ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ça veut dire que toutes les espèces ne peuvent pas rentrer dans l'arche, ça c'est clair. Donc, ce que le texte veut dire, c'est que ne sont rentrés dans l'arche que des représentants de chaque type. Ce qui n'est pas pareil. Ce qui est plus vraisemblable, en tout cas. Dieu ne nous oblige pas à croire n'importe quoi. Donc, alors les dinosaures, il y a eu des questions sur les dinosaures hier, donc voilà, j'en parle.
Les dinosaures et la Genèse.
Les dinosaures, d'abord, la Genèse ne parle jamais des dinosaures. Vous trouverez certains créationnistes qui vont vous dire oui, la Bible nous parle des dinosaures. Le Léviathan, c'est un dinosaure. Le Behemoth, c'est un dinosaure. Bon, c'est une explication. Je vous rappelle que les traducteurs sont très embarrassés pour traduire. Il y en a qui parlent de crocodile, d'hippopotame, toutes sortes de choses. Il vaut mieux leur laisser leur nom Behemoth et Léviathan, comme ça on est sûr qu'on ne se trompe pas. Mais on ne sait pas ce que c'est. Hein? Donc, alors, certains créationnistes vont vous dire, oui, mais il y a aussi le fait que dans de nombreuses civilisations, et notamment en Europe, on parle de dragons. Les dragons, s'ils en parlent,
la théorie, en anglais, Day Age Theory, donc c'est la fameuse théorie dont on a parlé, des jours-époques. Donc chaque jour de la création sont des longues époques. Vous avez aussi la théorie de l'intervalle, qui consiste à dire, voilà, entre le premier verset, et Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le verset 3, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il y a eu un espace de temps très long, mais un espace de temps très long où tout ce qui avait été créé dans le premier chapitre a été détruit. Et donc, vous avez une deuxième création qui commence au verset 3. Donc, première création, destruction, puis nouvelle création. Destruction parce que ça a été... le mal avait rempli cette première création, et donc élimination. Évidemment, le texte ne dit pas ça, parce qu'ils interprètent le texte en disant, au lieu de dire, comme c'est écrit, le texte, la terre était informe et vide, il le traduit, la terre devint informe et vide. Et ça, c'est une torsion du texte. Aucun spécialiste n'acceptera cette traduction. Alors, il y a aussi un créationniste donc fondamentaliste qui prend donc littéralement tous les versets bibliques et qui en font une théorie scientifique. Deuxième point, c'est que les arguments utilisés souvent, pas toujours, par ce mouvement sont peu scientifiques et souvent très spectaculaires. Plus c'est spectaculaire, mieux ça vaut, mais moins ils sont fiables. Il faut toujours se méfier des arguments spectaculaires. que ce soit d'ailleurs des arguments évolutionnistes, c'est pareil. À partir du moment où la presse s'en empare, le monte en épingle, méfiez-vous. Le travail du scientifique dans un laboratoire est un travail très obscur, très lent, il n'y a pas beaucoup de place pour le spectaculaire. Le discours est souvent intolérant et peu charitable. Il faut voir comment... Alors vous allez me dire, les évolutionnistes leur rendent l'appareil, c'est vrai, mais... Encore une fois, nous sommes du côté des chrétiens. Et donc, ce discours intolérant et peu charitable a même existé dans notre Église, il faut le savoir. Il existe encore, d'ailleurs. Mais, sachez que si ceux qui connaissent l'anglais ont eu en leur possession le commentaire biblique adventiste, première version, bien vous verrez comment... Le chapitre sur les origines est traité par un certain MacCready Price, un des pionniers de la géologie du déluge qui est adventiste. Eh bien, les pauvres, ils sont moins que rien, quoi, pratiquement. Hein. Donc, il faut faire très attention, ne pas suivre ça. Tout débat ne devrait qu'être qu'un débat d'idées et non pas un débat sur les personnes. On peut discuter des idées, être contre ou pour, apporter des arguments, confronter des arguments, pas de problème. Mais quand on commence à en venir aux insultes, aux dire vous êtes bête, vous ne comprenez rien, dans les deux sens d'ailleurs, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Refus de certaines évidences. Les chevauchements, par exemple. MacCready Price était contre l'idée des chevauchements, je vais vous expliquer après ce que c'est. L'ordre stratigraphique des fossiles, MacCready Price était contre l'idée d'ordre stratigraphique des fossiles. Il disait, ça n'a jamais existé, c'est une vue d'esprit, c'est une invention des évolutionnistes pour nous faire passer la pilule. Malheureusement, vous observez ça, vous ne pouvez pas y échapper, c'est comme ça. La glaciation... Certains disent que la glaciation n'a jamais existé. Pourtant, il y a quand même des éléments qui nous... Moi, je vous dis, dans la vallée de Genève, là, en bas, vous avez des blocs erratiques qui viennent des Alpes. Ils ont fait 100 km et personne qui est venu les amener. Hein. Il y en a même qui vont jusqu'à Lyon, pour vous dire. Donc, ça fait 300 km, 200, 250 km. Donc... La glaciation, c'est une évidence. Si vous niez ça, alors c'est... C'est-à-dire que, vraiment... Ah, vous fermez les yeux. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que un chevauchement? Alors voici un cas classique aux États-Unis. C'est une montagne qui s'appelle Chief Mountain. Et donc, vous avez ces roches, là, ce pic rocheux, qui est beaucoup plus ancien que ce qu'il y a à la base, géologiquement parlant. C'est pas logique, normalement. Et donc, naturellement, MacCready Price, vous voyez, vous dites, vous voyez, ça tient pas debout, cette histoire. L'ordre, c'est une invention. Et donc, en effet, ici, vous avez une sorte de faille qui sépare ces terrains plus anciens en haut du précambrien, donc très très âgé, géologiquement parlant, sur du Crétacé qui est de l'ère secondaire. Donc, normalement, c'est pas du tout ça, l'ordre. Alors, voilà comment c'est expliqué géologiquement. Vous avez donc ici des couches qui sont déposées les unes sur les autres, des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Il y a une compression sous l'effet des déplacements des plaques. Et donc, si vous avez une compression, forcément, ça va lentement mais sûrement se plisser. Puis, ça continue à pousser, ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture. Là, ça va casser, va se former une faille, et ce bloc va commencer à passer par-dessus l'autre. Puis, une fois que c'est bien passé par-dessus, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, car parfois des centaines de kilomètres, on connaît des cas, dans l'Himalaya par exemple, vous avez des chevauchements énormes. Alors évidemment, vous voyez bien ici que les terrains les plus anciens sont passés sur des terrains plus récents. Il va y avoir ensuite érosion, et vous avez ici cette montagne qui est là, qui reste plaquée sur quelque chose de plus récent. Alors, MacCready Price disait, non ça, jamais de la vie, ça n'a jamais pu se faire. Le gros défaut de MacCready Price, qui était un géologue autodidacte, c'est qu'il allait pratiquement jamais sur le terrain. C'est ennuyeux pour un géologue, parce que le propre du géologue, c'est d'aller voir sur place. Donc, si vous allez sur place, il suffit d'aller voyager un peu, vous voyez très bien l'ordre des fossiles, l'ordre des couches, et l'ordre des couches, et il y a une faille ici, il est le même ici, ici, simplement, c'est passé par-dessus. Et donc, le chevauchement est un fait. Donc, si vous voulez, avec ce genre de négation, vous pouvez démonter tout. Simplement, le problème, c'est que la négation elle-même ne tient pas du tout. Donc, évidemment, déjà, vous partez sur une mauvaise base. La recherche de l'arche de Noé, vous avez entendu parler de ça maintes fois. Combien de conférenciers sont venus? Moi, je me rappelle, j'étais tout petit à Paris, il y en a un français, donc Navarro, qui a débarqué une fois avec un petit morceau de bois qui prétendait être de l'arche de Noé.
C'est comme la croix de Jésus, on en a trouvé des morceaux partout.
L'arche de Noé, on en rapporte constamment. Et alors?
Oula.
Alors, il y a eu des expéditions qui sont parties sur le mont Arara pour aller chercher l'arche de Noé. Et donc, certains prétendent l'avoir vue. Il y en a qui ont pris des photos aériennes, etc. À chaque fois, les photos ont disparu. C'est bizarre, mais c'est pratiquement tout le temps. Il y en a quelques-unes, quand même, qui nous sont arrivées. Vous voyez, par exemple, celle-là.
Voici donc l'arche de Noé.
Alors, oui, ça vient à peu près les dimensions. Mais
les géologues peuvent vous expliquer ça facilement.
Ça n'a rien à voir avec l'arche de Noé.
Ça, c'est des choses que... ce sont des couches, normalement, qui devaient faire un dôme, là, etc. Puis ça...
C'est très facile. Il n'y a aucun morceau de bois, d'ailleurs, ici, à cet endroit. En voilà une autre. L'arche de Noé. Alors, pour l'instant, il est clair... Si on vous dit « j'ai trouvé l'arche de Noé », il va falloir demander un peu plus de preuves que ça. L'arche de Noé, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, malgré tout ce qu'on a pu dire. Donc, l'argument de la fameuse rivière Paluxy, qui revient constamment, ces serpents de mer. De temps en temps, ça disparaît parce que on s'aperçoit que c'est un peu litigieux, puis ça réapparaît. Qu'est-ce que c'est? Bien, vous voyez ici, c'est une petite rivière du Texas qui, si on la sèche, va faire apparaître son lit, qui est une dalle de calcaire. Et là, vous voyez des traces. Certaines dans cette direction, d'autres dans cette direction. Alors, en effet, ici, celles qui vont dans cette direction sont des traces clairement de dinosaures.
Certaines sont mieux que d'autres, mais on les reconnaît très bien.
Et puis, vous avez, dans cette autre direction, d'autres traces qui ont été attribuées à des humains, mais des humains géants, un peu plus grands que les humains actuels. Alors, lorsque vous allez sur le terrain, que vous regardez ces traces, vous avez quand même un peu de peine à dire, voilà, ce sont des traces humaines. Évidemment, ça serait très intéressant si c'était des traces humaines. Parce que, alors, à ce moment-là, vous auriez la preuve que les dinosaures et les humains ont vécu à la même période. Ce qui démontrait totalement tout le scénario évolutionniste. Le problème, c'est de savoir si réellement ce sont des traces d'humains. Alors, quand vous allez sur le terrain, il y a de quoi douter. Par contre, vous avez des magnifiques photos avec des traces d'humains parfaites. Je dirais que c'est vous-même qui venez de marcher à notre sable, c'est extraordinaire. C'est peut-être un peu plus grand, mais enfin, c'est extraordinaire. Mais, elles ne sont plus sur place, et surtout, et notamment à l'université de Loma Linda, on avait demandé des échantillons, ils n'ont jamais voulu nous les donner pour les observer de plus près. Parce que, vous savez, avec un burin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et donc, vous ne pouvez pas prendre au sérieux cet argument. Là aussi, on est à la limite de la malhonnêteté. D'autant plus que certaines de ces traces ont été vendues à un prix, comme toujours, on fait du commerce avec toi. Donc, voilà. À un moment donné, il y a eu des films qui ont été faits par certains groupes créationnistes là-dessus. Après, ils ont été sortis de la circulation. Puis maintenant, de nouveau, il y en a quelques-uns qui font réapparaître ça. Puis, sans compter qu'il y a des cas où on voilà, des empreintes d'humains.
On sait, disons.
Voilà. Bon. Pas toujours évident, évident.
Mais ces traces qui existent, comment faut-il les interpréter ?
Ah, ben justement. Le problème est de savoir, il y a plusieurs possibilités, hein, il n'y a pas que les humains, il y a d'autres choses. Mais l'interprétation qui dit que ce sont des humains, c'est une interprétation qui est orientée. C'est-à-dire, puisqu'on voudrait que ce soit des humains, donc ce sont des humains. Mais ça peut très bien être autre chose. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop. Ça peut être d'autres animaux. Hein, mais pour l'instant... Oui, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Mais pour l'instant, en tous les cas, on n'a aucune preuve que ce sont des traces.
Est-ce que c'est une preuve de bipède ?
Oui, vraisemblablement. Oui, je pense, oui. Ouais. Alors, chez les adventistes, le problème, tous ces débats existent aussi, évidemment. L'histoire de l'âge de la Terre, on revient pas là-dessus. Lors des fossiles, sachez que Price et Clark se sont battus, enfin, battus entre guillemets, sur cette question. Clark étant un élève de Price, Price était contre cette idée de l'ordre des fossiles, Clark était pour, et je vous garantis que Clark a passé un mauvais moment, puisque Price étant d'une... un caractère assez fort, il lui a dit, mon cher, tu es en train de devenir évolutionniste, carrément. Et tu fais le jeu, tu vas perdre la foi, de toute façon. Donc c'est pour vous dire, dès qu'on commence à changer un certain nombre de choses, les réactions sont toujours épidermiques. Donc, chez les adventistes, on a été... pas les seuls, mais parmi ceux qui ont essayé de développer ce qu'on appelle le créationnisme scientifique. Donc je dis la difficulté de cette expression, mais enfin, voilà, essayer d'expliquer scientifiquement certains éléments qui sont visibles sur notre planète et montrer que là où peut-être l'explication évolutionniste a des difficultés, peut-être qu'avec un autre point de vue, on trouvera une meilleure solution. C'est ainsi donc que le Geoscience Research Institute a été créé en 1958 par la Conférence Générale qui réunissait donc des scientifiques pour étudier toutes ces questions. Alors le Geoscience Research Institute a connu des hauts et des bas. Au début, c'était bien parti, recherche, puis après à un moment donné... il y a eu une certaine volonté pour que le GRI ne fasse que des découvertes dans le bon sens, c'est-à-dire il faut absolument prouver ce que l'on croit, donc évidemment ça c'est pas de la science. Un chercheur lorsqu'il fait de la recherche ne sait pas à l'avance ce qu'il va trouver, donc il peut se tromper, mais en tous les cas, il ne peut pas dire à l'avance, voilà, ça va concorder avec ce que nous croyons. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Je pense que ça se rétablit un peu, mais c'est sûr que dans une église qui essaye de défendre sa foi, si elle peut avoir derrière elle des scientifiques qui confortent leur idée, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus les forcer dans leurs conclusions. Alors, le créationnisme donc, doit se détacher de la politique et du fondamentalisme. Tant qu'il en sera cantonné à cette façon de faire, il se discréditera. C'est déjà fait d'ailleurs, il est complètement discrédité. Il doit rester honnête. Il doit progresser dans le domaine scientifique. Ça a été toujours son point faible. Et d'ailleurs, beaucoup de ces mouvements créationnistes vous disent scientifiquement des choses qui sont totalement aberrantes. La recherche scientifique n'est pas poussée. Pas du tout, du tout. Le Geoscience Research Institute est formé de scientifiques qui font de la recherche, mais ils ont des moyens réduits. Donc il ne faut pas espérer non plus qu'on trouve des tas de choses, on essaye, mais enfin voilà, c'est des moyens très limités. Donc, en tous les cas, il faut faire un travail scientifique honnête. Ça, c'est absolument nécessaire. Doit rester humble, car il faut bien comprendre que beaucoup de ces problèmes nous dépassent. Ceci fait intervenir Dieu, puisque nous le croyons, et donc les origines seront forcément quelque chose qui nous dépasse. On peut étudier le résultat de la création, plus ou moins difficilement, il y a des choses qu'on arrive à expliquer plus facilement que d'autres, mais aller au-delà, impossible. Voilà. J'ai donc terminé.